Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Programme de développement local de 145 territoires. Le PNUD vient de livrer 31 ouvrages au gouvernement provincial du Sud Kivu. Il s'agit des bâtiments administratifs, scolaires et sanitaires. La cérémonie a eu lieu ce week-end à Chirunga, dans le territoire de Kabare. Lutte contre l'insécurité grandissante dans la cité frontalière de Kassindi-Loubiria, dans le territoire de Beni. Le chef du secteur de Rwenzori promet d'impliquer davantage les chefs de base. Japhet Kasereka l'a annoncé hier à l'issue d'une rencontre avec les différents leaders locaux. Et puis, Ingo Herbert est l'invité de ce journal. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne a visité hier Goma, différents projets humanitaires financés par son gouvernement dans la région. Il s'est entretenu sur place avec des représentants des personnes déplacées bénéficiaires de ces projets. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Sud Kivu. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a remis hier samedi au gouvernement provincial plus de 30 infrastructures administratives, scolaires et sanitaires, des ouvrages construits dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Le gouverneur intérimaire du Sud Kivu a inauguré des écoles primaires, des centres de santé et des bâtiments administratifs. C'était lors d'une cérémonie à Chirunga dans le territoire de Kabare. C'est un reportage de Emmanuel Elamegi Wakabedi.
Depuis avril 2023 jusqu'à ces jours, le PNUD vient de livrer au Sud Kivu 31 ouvrages du programme de développement local de 145 territoires. Madame Aïda Sissé, représentant résident adjoint du PNUD en RDC.
Pour la province du Sud Kivu, nous avions au total 96 infrastructures à finaliser. À ce jour, nous avons déjà finalisé 17 écoles primaires, 10 centres de santé et 4 bâtiments administratifs.
Ces écoles primaires publiques et ces centres de santé équipés favorisent les conditions de la gratuité de l'enseignement de base et de la gratuité de la maternité. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, bénéficiaire, s'en réjouit. Marc Malagoka Chekere, gouverneur de province AI.
Nous avons une salle de santé, nous avons des écoles et bureaux administratifs. Regardez juste à côté de nous l'école que ces enfants utilisaient. C'était en tôle. Et regardez aujourd'hui ce que nous avons comme bâtisse. Ça va changer et l'éducation, ça va même changer la vision de ces enfants-là. Soyez rassurés qu'avec la vision du chef de l'État, nous allons donner un lendemain meilleur à tous les Congolais qui aspirent à ça.
Le bâtiment administratif du territoire de Kabare dispose de 16 bureaux, une salle de réunion dotée d'un système électrique par panneaux solaires. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Pendant ce temps, en Ituri, le tronçon Mambasa-Nyanya sur la route nationale numéro 4 est dans un état de dégradation très avancé, situation consécutive aux pluies diluviennes tombées sur cette région depuis près de 3 semaines, ce qui entraîne la flambée des prix de certaines denrées alimentaires sur le marché. D'après l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, même le prix de transport en commun a doublé. Reportage signé Jean-Claude Loki.
Plusieurs bourbiers jonchent cette route où au moins 20 véhicules se sont embourbés. D'autres sont renversés avec des marchandises qu'ils transportaient. C'est ce qu'explique John Vouleverio de l'ONG CRDH. Cet activiste des droits de l'homme ajoute que de nombreux usagers de cette route préfèrent prendre des motos plutôt que des véhicules pour relier Mambasa et Nyanya, long d'environ 200 km.
Il y a actuellement une pluie qui bat sur l'ensemble du territoire, mais aussi l'entretien qui était en train d'être fait sur la route. On est en train d'estimer que ce n'est pas fait confortablement, ce qui occasionne partout là que les bourbiers étaient, sont encore revenus.
La dégradation des routes entraîne une pénurie de denrées alimentaires à Nyanya, généralement approvisionnée en produits vivriers par la province du Nord Kivu. Certains produits sont devenus hors de prix sur les marchés locaux, souligne John Vouleverio.
Un kilo d'oignon qui s'achetait à 5 000 francs, aujourd'hui ça se négocie à 9 000 et à 8 000 francs. Un sac de riz qui était à 60 000 qui bascule déjà là à 90 000 francs sur le marché. Donc vous trouvez que les choses ont énormément haussé de prix à cause des mauvais états de la route.
Cette route qui relie les provinces de l'Ituri, Tchopo, Ouélé et Nord Kivu venait d'être partiellement réhabilitée par une entreprise d'entretien des routes qui a suspendu ses travaux depuis quelques mois pour des raisons qui ne sont pas communiquées.
Direction le territoire de Beni, au Nord Kivu. À la suite de l'insécurité grandissante relative aux incursions nocturnes dans la cité frontalière de Kassindi-Lubiria, le chef du secteur de Rwenzori promet d'impliquer davantage les chefs de base. Japhet Kasereka l'a dit hier à l'issue d'une réunion de sécurité qui a réuni les différents leaders de Kassindi, les jeunes et même la Fédération des entreprises du Congo, FEC Kassindi. Japhet Kasereka s'est confié à la presse locale, propos choisi par Guylaine Kassassia.
Nous avons tenu une réunion de sécurité restreinte aux membres du comité local de sécurité pour évaluer les différentes plaintes, mais aussi les différentes recommandations proposées par la société civile et les autres composantes, voir la faisabilité de certaines recommandations proposées par la population, mais aussi prendre certaines mesures à notre niveau maintenant pour endiguer cette hémorragie d'insécurité. Comme on le dit toujours, la sécurité c'est une affaire de tous. Il faut qu'il y ait collaboration entre les services de sécurité et les chefs de base. Nous nous sommes rendus compte que si nous impliquons les chefs des 10 maisons dans la sécurité de notre milieu, cela va avoir des résultats efficaces parce que quand il y a un camp d'incursion dans un ménage, la personne qui est formée en premier, c'est les chefs des 10 maisons. Et qu'il est en contact avec les chefs d'équipe des patrouilleurs, il va alerter vite et l'intervention va se faire dans un plus bref délai. Nous allons mettre en place un système de dotation de Motorola, non seulement à tous les membres du comité local de sécurité, mais aussi les chefs de base.
Pour rappel, dans un communiqué publié mercredi, la société civile de Kassindi affirme que depuis le début du mois d'avril, 5 personnes ont été blessées à l'arme blanche et plus de 20 maisons d'habitation cambriolées par des hommes armés. Restons au Nord Kivu. Au moins 17 zones à forte concentration du gaz carbonique, dénommées Mazuku, sont déjà identifiées au quartier Lac Vert, ouest de Goma. C'est par l'association locale Groupe Engagé pour le Développement Intégral, GEDI. Cette organisation a présenté ce bilan hier au réseau des associations congolaises des jeunes, RACOJ, un des financiers de cette association. Selon le coordonnateur de GEDI, au moins 8 de ces zones sont déjà marquées. Le projet vise à lutter contre les menaces de ce gaz mortel qui a déjà fait une dizaine de victimes dans cette région qui accueille des milliers de déplacés. Franklin Tumusifu explique la situation au micro de Bernardin Nyangui.
Il y a un tant de personnes qui sont déjà décédées dans les gaz. Il y a le coordonnateur provincial de la protection civile du Nord Kivu qui a perdu sa vie toujours dans les quartiers là, c'est Boulengo, même c'est l'île. Et dès qu'il y a un déplacement massif de la population dit à la guerre du M23, depuis le 7 février, ils sont arrivés là sans avoir notion sur les endroits à haut risque, là où il y a des gaz. Et dès ce jour-là, on a déjà enregistré des personnes qui ont perdu leur vie dans les gaz et nous avons déjà sauvé plus de 15 personnes qui ne savaient pas c'est quoi les gaz et des chefs, on ne sait pas compter. Parmi les 17 zones qu'on a déjà identifiées, nous avons déjà marqué 8 sites dans les camps de Buhimba avec pendant des signalisations, aussi des fils balbelés. Oui, par après, on fait des sensibilisations en montrant à la population les dangers se trouvant dans les endroits où il y a les gaz, communément appelés mazouku.
Rappelons que le dernier cas de décès d'un déplacé par asphyxie causée par ce gaz remonte au 3 mars dernier sur l'avenue Mabanga, quartier Lac Vert. Le projet GEDI répond donc à la demande qui revient à chaque fois sur des dispositions de protection des déplacés contre ce gaz mortel. Rendons-nous dans la province du Tanganyika. Le député national élu de Kalemie, Christian Kitungwa, déclare que la problématique des inondations à Kalemie est une urgence. Après une visite hier sur le lieu des inondations, cet élu demande à l'exécutif provincial de trouver une solution, même si c'est une catastrophe naturelle, et aussi de prendre des mesures pour prévenir ce genre de catastrophe. Christian Kitungwa, élu de Kalemie, est au micro de Paulin Munanga.
Gouverner ou diriger, c'est prévoir. Mais quand dans la situation, elle est généralisée. Vous avez suivi au Burundi, vous avez suivi à Dubaï, vous avez suivi à Kinshasa, d'ailleurs c'était avant que Kalemie, et c'est presque partout, il y a augmentation des débits d'eau, et donc ça nous interpelle. Nous, en tant qu'élus, nous, en tant que population du Tanganyika, ça nous interpelle que l'on prenne des mesures qui vont permettre à ce que prochainement, s'il y a augmentation d'eau, que l'on ne se retrouve plus dans une situation pareille. Nous nous alignons pour aller trouver solution à des problèmes pareils parce que ce sont des problèmes qui nécessitent l'urgence des autorités en province. Et moi, je descends en tant qu'élu du peuple pour voir et interpeller certains et voir comment est-ce que nous pouvons trouver solution à cette question. C'est vrai que c'est une question naturelle, mais ça peut trouver des solutions artificielles.
Direction la province du Haut-Touélé. Au moins 8 enfants sont morts de la rougeole dans la zone de santé de Doruma. C'est à la suite de l'épidémie qui sévit dans cette région frontalière avec le Soudan du Sud et la République centrafricaine. Ce, depuis près de 4 mois. D'après le médecin chef de zone de santé de Doruma, jusqu'en début de ce mois d'avril, plus de 300 cas ont été notifiés. Il plaide pour une assistance en médicaments car les structures sanitaires ne sont plus en mesure de prendre correctement en charge les malades à cause de l'afflux des patients qui se présente à des établissements sanitaires accessibles. Le point de la situation avec Jean-Claude Loki.
C'est depuis la dernière semaine du mois de décembre 2023 que cette région fait face à l'épidémie de la rougeole. 6 aires de santé sur les 12 qui composent cette zone de santé sont à ce jour affectées avec comme épicentre l'aire de santé de Doruma, Bangadi, Diagbe, Gangala, Kapili, Weneti et Napaka sont les autres localités où de plus en plus on enregistre de nouveaux cas, affirme le médecin chef des zones de santé de Doruma. Le faible taux de couverture vaccinale, l'insuffisance de stocks de vaccins et le trafic transfrontaliers non contrôlés entre les habitants de ces trois pays en sont les principales causes, comme l'indique le docteur Lucien Arowandi.
Il y a un peu de réticence pour que les parents amènent les enfants à la vaccination. La deuxième raison, c'est que les deux pays, la République centrafricaine et le Soudan du Sud, nous savons tous que ce sont des pays qui ne sont pas stables. Il y a des groupes armés ci et là, et le fait qu'il y ait ces contacts-là, ça permet que la maladie puisse facilement aussi traverser vers chez nous. Alors les vaccins que nous avons ne peuvent pas suffire à vacciner tous les cas.
Cette autorité précise que l'effectif total des enfants décédés de cette maladie est bien supérieur aux 8 cas notifiés. Nombreux autres malades meurent dans des villages reculés où l'accès aux soins de qualité est difficile. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Et puis cette grogne des agents de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC Maniema, ils déplorent l'acte du gouverneur intérimaire qui, selon eux, a désaffecté certaines parcelles du camp Makuta appartenant à ses agents, parcelles pourtant obtenues, disent-ils, par compensation des arriérés de salaire par la société. Très en colère, ces agents demandent à l'autorité provinciale d'annuler son arrêté du 22 mars portant désaffectation de quelques parcelles dans le camp Makuta. Certains d'entre eux se sont exprimés au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes venus protester contre l'arrêté pris par le gouverneur de province ad intérim, M. Afani Idrissa Mangala, lequel arrêté porte désaffectation de bandes de terres contenues dans le camp Makuta. Vous vous souviendrez avec nous que toutes ces maisons et tous ces espaces ont été attribués légalement par la société SNCC aux agents en contrepartie de leurs arriérés de salaire. Mais à notre grande surprise, en date du 22 mars 2024, M. le gouverneur ad intérim signe un arrêté pour désaffecter ces maisons et les revendre à des individus. On ne comprend pas, c'est de l'anarchie. Comment on peut désaffecter une propriété appartenant à autrui au bénéfice d'une autre personne? Voilà pourquoi nous sommes réunis pour hausser notre ton et dénoncer cette manœuvre qui tend à porter atteinte aux droits garantis aux particuliers.
C'est vraiment inconcevable qu'un gouverneur de province qui est censé protéger la population puisse se permettre de tels abus. Nous sommes vraiment désolés et ce qui se passe, ça ne se passe nulle part ailleurs dans ce monde ici. Nous avons atteint en tout cas un niveau inimaginable dans ce pays. Chacun fait ce que bon lui semble.
Tous les efforts pour avoir la réaction du gouverneur à y incriminer n'ont pas abouti. Restons dans le Maniema. Les biologistes médicaux et techniciens de laboratoire de cette province sollicitent l'indulgence des autorités et des hommes de bonne volonté pour l'amélioration des conditions de leur travail. C'est en marge de leur journée célébrée le 15 avril de chaque année que ces biologistes ont lancé ce plaidoyer. On écoute à ce sujet Ami Sima Soudi, président provincial du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires du Maniema, propos recueillis par Florence Kizalunga.
Les conditions des laboratoires actuels, ça laisse à désirer. Les biologistes médicaux sont outillés par des capacités humaines parce qu'il faut savoir que dans les laboratoires, il y a trois composantes. Nous avons les personnels qualifiés, nous avons les bâtiments qui doivent répondre aux standards internationaux, ainsi que la qualité de l'équipement qui doit être utilisé. Et quand vous réunissez ces trois composantes-là, vous allez obtenir les résultats de qualité. S'il n'est pas les résultats de qualité, c'est ce qui peut induire même à résistance aux antimicrobiens. Nous travaillons dans des conditions très difficiles parce que les équipements que nous utilisons aujourd'hui, les bâtiments dans lesquels nous sommes en train de travailler, tous ces aspects-là ne répondent pas aux normes internationales. Ça influence dans la qualité des résultats que nous rendons. Pour être dans les normes et répondre effectivement selon la déontologie, de nous aider à aménager les laboratoires afin que nous puissions travailler dans des conditions requises et de nous fournir les équipements qui doivent nous aider à prendre correctement les malades et leur rendre les résultats de qualité.
Actualité internationale.
Nous sommes au Zimbabwe. Le district de Mazowe, dans la province centrale du Mashonaland, est confronté à une grande sécheresse prolongée qui menace l'approvisionnement en maïs du pays et a un impact sur les activités des meuniers. À l'heure actuelle, les faibles précipitations dans le district de Mazowe ont détruit 1 million d'hectares de maïs et les agriculteurs locaux ont déclaré que le temps exceptionnellement sec avait fait chuter leur production alimentaire.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur Ingo Herbert, visitait hier samedi à Goma différents projets humanitaires financés par son gouvernement dans la région. Parmi ces projets, ceux exécutés par le réseau des associations congolaises des jeunes, RACOJ, où il a eu à s'entretenir avec des représentants des personnes déplacées bénéficiaires de ces projets. Dans cet entretien accordé à Bernardin Nyangi, Ingo Herbert affirme que son gouvernement encourage la voie politique pour résoudre la crise dans l'est de la RDC. Suivez.
Monsieur l'ambassadeur, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de visiter ici le projet de RACOJ. Vous êtes entretenu avec des bénéficiaires. Vous avez aussi visité d'autres projets financés par, bien sûr, le gouvernement allemand. Est-ce que vous avez un constat particulier par rapport à tout ça?
D'abord, je suis pour la première fois à Goma. Jeudi, vendredi, on était en groupe des ambassadeurs avec les coordinateurs humanitaires de l'aide humanitaire des Nations Unies. Et j'ai saisi la chance de rester encore à Goma les week-ends pour visiter aussi les projets des ONG allemandes parce qu'on soutient l'Est du Congo, soit par le système des Nations Unies, soit par une dizaine des ONG allemandes. Et je suis très touché par les projets. Et Kinshasa, c'est loin d'ici. Et naturellement, je suis bien informé sur le projet, sur le papier. Je suis bien informé sur la crise ici à l'Est, sur le développement sécuritaire, mais de vraiment parler avec des victimes et de voir quand même si on fait un impact avec notre soutien du gouvernement allemand, c'est autre chose. Je suis bien impressionné par le travail des ONG, par l'engagement aussi avec les locaux, mais aussi je suis touché par la souffrance des victimes et qu'il reste encore pour longtemps beaucoup à faire. Et je peux dire ça reste pour nous comme gouvernement allemand, l'Est du Congo, en ce qui concerne l'aide humanitaire, stabilisation et aussi la coopération, ça reste une priorité.
Et qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait peut-être pour arriver à atténuer tant soit peu la souffrance des Congolais actuellement, surtout dans notre région?
D'abord, ça c'est toujours dit, on dit à la fin on a besoin d'une solution politique. Parce que vous savez, il y avait Willy Brandt, un grand chancelier d'Allemagne qui a reçu aussi le prix Nobel de la paix, il a dit une fois, peut-être la paix ce n'est pas tout, mais tout n'est rien sans la paix. Et ça on voit ici. Sans la paix, je crois, et depuis longtemps on n'a pas la paix ici à l'est du Congo. On va pas voir vraiment un développement. Mais il y a aussi, on pourrait dire, Goma, une ville si beau, si triste. Vous avez une région très riche, soit de paysages, soit de l'agriculture, soit de minerais. Il faut trouver une solution régionale pour ça.
Donc, pouvons-nous dire que l'Allemagne soutient le dialogue pour résoudre la crise dans cette partie de l'Est de la RDC?
Définitivement. On soutient les initiatives en courant.
Est-ce que vous avez un message particulier, par exemple, aux déplacés avec lesquels vous venez de vous entretenir ici?
On est ensemble. On reste avec vous. On voit la souffrance. On voit vous soutenir. J'étais bien impressionné par comment même on s'est organisé dans les camps de déplacés internes, par exemple, et comment, quand même, ils essayent d'organiser une vie avec une certaine dignité. Je sais, les fonds sont toujours limités, mais on va essayer de faire le mieux de notre côté.
Monsieur l'ambassadeur, merci.
Merci.
Voilà, c'était notre invité, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Il répondait aux questions de Bernard Nyangui. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.